Bien, est-ce que tout le monde est de retour? On en a perdu quelques-uns. Nous allons donc reprendre maintenant avec une intervention d'Olivier Bruand, qui est enseignant-chercheur en histoire médiévale à l'université de Clermont-Ferrand, qui est spécialiste d'histoire économique et sociale du Haut Moyen-Âge, échange sur les échanges, les seigneurs et pouvoirs locaux. Il a travaillé sur les voyageurs et marchandises, les réseaux de communication entre Loire et Meuse au 8e et 9e siècle. Il a également publié un article sur la circulation du sel de l'Atlantique en France septentrionale et puis également un article sur les moines et le sel à l'abbaye de Déas. Donc Déas, c'est l'ancienne abbaye de Saint-Philibert de Grandlieu qui est pas très loin de Nantes. Et donc, je vous remercie pour votre intervention.
Bien, eh bien, on me charge donc de mettre un peu de sel pour la fin de journée, hein, et donc remercier les organisatrices qui ont choisi que la journée se termine par l'occasion de vous assaisonner un petit peu. Hein, alors, on va voir ça d'un petit peu plus près. Alors, je vous préviens tout de suite par rapport à la communication précédente où on a pu avoir de la technique dans la version pure et dure. Moi, je vais vous emmener vers les 9e, 10e siècle, à la marche sur le 11e. Et là, même s'il y a des connaissances techniques certaines qui existaient dans les milieux monastiques et dans les milieux seigneuriaux en général, il faut bien dire que l'historien doit y renoncer, puisque finalement, il est prisonnier des moines et des chartes monastiques. Mais il y a bien des choses qu'il ne voit pas. Ce qui explique du coup que vous allez avoir moins de documentation du type photographique. Vous allez avoir une carte. Alors, Jean-Luc Sarrazin disait que sa carte était du siècle dernier. Moi, je revendique carrément qu'elle est du millénaire dernier. Ne nous gênons pas, hein, on n'a quand même pas toujours l'occasion de changer de millénaire. Et effectivement, elle correspond à une époque où on était encore obligé de... Bon, c'est un schéma de repérage. Et sinon, vous aurez des morceaux de texte latin. Ça n'est pas particulièrement passionnant, mais ça nous permettra de revoir les dossiers. Ce qui nous permettra de placer un petit peu cette communication sous les mains du créateur de Gaston Lagaffe, Franquin. Non pas parce que j'ai envie de vous faire de la morue aux fraises, comme son personnage, mais parce que sachez que l'épreuve qu'il demandait aux apprentis dessinateurs, c'était « dessinez-moi quelqu'un qui demande du sel », sans légende. Eh bien, on s'aperçoit que demander du sel, ça demande de l'illustration et que là, l'illustration, on ne l'a pas ou on ne pourra pas l'avoir. Et c'est donc ceci qu'on va essayer de repérer. Donc, moine et saline, oui, mais moine dans leur dimension seigneuriale. Hein, je ne crois pas qu'il faille vous imaginer que les moines aient eu envie de mettre leurs sandales dans la boue. Hein, d'un marais. Donc, la côte de Charente-Maritime est un peu évidemment au sud de la Vendée. Aujourd'hui, elle est attestée comme une zone de paysage de marais salant. Donc ici, il y a des repérages qui sont approximatifs. Honnêtement, on ne peut pas reconstituer complètement. Je ne traiterai pas d'Oléron, puisque Oléron, c'est postérieur. C'est en gros la partie qui va être jusqu'à l'apparition, donc entre Marennes et puis jusqu'à la zone rochelaise qui va nous servir de point de départ. Et on sait que ce paysage est un paysage qui a été aménagé et entretenu, et là je rejoins ce que disait Jean-Luc Sarrazin, hein, ce genre de paysage ne se maintient que dans le cadre d'un entretien très rigoureux, mais évidemment l'entretien du paysage né au Xe siècle est illusoire, puisqu'on ne connaît plus exactement l'apparence de ce que pouvaient être les salines de cette époque-là. Et donc, ce qu'on sait, simplement, c'est que cette côte commence à être aménagée dans la deuxième moitié du 9e siècle, point de vue saline, avec un petit temps de retard par rapport au sel dit de la baie, c'est-à-dire plus au nord, hein, le sel qu'on dirait nantais, sauf qu'à l'époque, il n'est pas à Guérande, mais il est sur le côté sud-Loire. Hein, donc, avec aussi l'adaptation d'une nouvelle technique qui s'est modifiée justement dans le tournant du 7e, 8e siècle. On passe du sel indigène, donc par le feu, au sel par évaporation. Et donc à l'apparition de notre marais salant qui impose de créer un paysage entièrement à cet usage. Alors pour retrouver les traces de ces premiers aménagements par les sauniers, ben, l'historien, là malheureusement, il va être entièrement dépendant de sources et chose archi-classique pour la période et quand même, il faut bien le dire, un petit peu gênante, d'un seul type de source, les chartes monastiques. Des chartes monastiques qui peuvent être des chartes d'achat, des chartes de création, des chartes de remise de saline, c'est toutes les celles que j'ai pointées là en fonction des dates, et que l'on peut aussi, et voilà, ce sera l'autre document que vous verrez, pointer quand vous vous amusez à les relever. Bon, voilà. Alors, ça n'est qu'un morceau, c'est un exemplier. Hein. Je ne vous ai pas mis tout ce qui existe, sinon je pourrais vous mettre 10 pages comme ça. Je vous ai déjà dit que le sel, c'était bien en petite quantité, mais si je vous mets 10 pages comme ça, ça va devenir particulièrement indigeste. Donc, on reviendra juste sur quelques actes à l'occasion. Alors, en plus, il y a un autre problème qui va se poser, c'est que ces chartes vont nous indiquer, bien sûr, que les établissements monastiques s'intéressent au sel, on va voir de quelle manière, qu'ils s'intéressent à la production, éventuellement à la vente, mais il va falloir se méfier de l'effet miroir de ces chartes, effet miroir grossissant, qui pourrait nous amener, ça a d'ailleurs amené pendant un certain temps certains à ce genre de choses, à voir en eux des producteurs et distributeurs exclusifs de sel. C'est faux, mais il y a encore 50 ans, on vous aurait affirmé avec tranquillité que c'était comme ça. Bon, et pourquoi ? La méfiance est de mise parce que l'historiographie dite domaniale, modèle du grand domaine, voulait toujours créer des modèles, un modèle théorique qui était probablement assez loin des réalités économiques, avec un modèle qui fonctionnait en circuit fermé, bien arrangé. Et donc, vous trouvez dans des publications un peu anciennes la mention d'une phase domaniale du sel. Alors, une fois pour toutes, et c'est un conseil que je donne toujours à tous mes étudiants, je rappelle à tous que le mot domanial est une absurdité. Il y a un seul mot latin, dominus, il se traduit par seigneur. Hein? Et donc, quand vous récitez le Notre Père, dominus, vous ne traduisez pas notre maître. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, ici, revenir à de plus justes proportions et mesurer plus calmement les biais de la documentation. Alors, des établissements, certes, se sont lancés dans la production ou le contrôle seigneurial du sel. Et ici, j'ai centré principalement sur un certain nombre d'établissements. Alors, il y en a deux qui vont nous servir de piste. Voilà, Saint-Cyprien à Poitiers et Saint-Mexan. Bon, ça fait un dossier qui est déjà suffisant. On pourrait en trouver d'autres. Il y a, pour montrer que ça existe à côté, une petite mention sur de Redon qui est au départ. Mais c'est à peu près sur ça qu'on va se concentrer. Avec un nombre d'actes qui composent leur dossier salicole, qui est relativement important, mais qu'il faut quand même replacer par rapport à la totalité des actes qu'ils ont. Alors, ces actes qui sont des cartulaires, des chartriers ou des copies, puisqu'on avait évoqué tout à l'heure le fait qu'il y avait pas mal de documentation qui a été perdue et heureusement recopiée avant d'avoir brûlé, c'est pas grand-chose. Vous prenez l'ensemble des chartes de Saint-Mexan, le sel, oui, c'est bien, c'est intéressant, mais c'est quoi ? 5-6% des chartes. Vous prenez Saint-Cyprien, vous êtes dans le même ordre. Donc de là à avoir une espèce de mafia monastique avec le monopole du sel, bon, mieux vaut prendre les choses calmement. Et en plus, les établissements qui avaient probablement le plus d'archives sur le sel à l'époque, ben on sait quels sont perdu. Parce que quels étaient les établissements qui auraient pu avoir des archives sur le sel ? Noirmoutier. Bon, Noirmoutier, replié à Saint-Philbert en 836. Bon, et puis après, très rapidement, à la fin du IXe siècle, bon, ben ça y est, ils sont à Tournus, en Bourgogne. Alors effectivement, les marais salants sur le bord de la Saône, c'est un peu compliqué. Les chartes n'ont pas suivi. La zone a été un peu abandonnée et la documentation n'y est pas. Autre exemple qui aurait pu suivre aussi et dont on ne sait strictement rien, peut-être qu'on se posait des questions sur ce qu'aurait pu avoir Charroux. Sauf que Charroux, on sait qu'ils ont une exemption pour faire circuler des navires de sel, portant éventuellement du sel, mais on ne sait rien des terres. Alors ils ont du sel qui tombe dans leur navire, comme ça, par vertu du Saint-Esprit, je suppose. Donc vous voyez, donc on est constamment confronté à ce type de biais qui nous empêche de voir les choses calmement. Alors ces chartes posent donc aussi un deuxième problème, indépendamment de la conservation. Toujours se souvenir qu'une charte conservée dans un chartrier ou dans un cartulaire pour la période qui va des Carolingiens jusqu'au XIe siècle, c'est une documentation élitaire, une documentation qui fait partie de l'entre-soi. C'est particulièrement visible à Saint-Cyprien, on verra avec un certain nombre de signataires que je mentionnerai, et les salines qui sont dans les temporelles monastiques ce ne sont pas des dons ou des ventes simples, ce sont des dons entre gens du même monde. Ce sont des ventes pour se faire reconnaître. Ce sont éventuellement des remises à titre de donation pro anima. Ça peut être éventuellement, dans le cas de l'acte de Saint-Cyprien, le 525, on va le retrouver, il va être par là. Alors, l'ordre alphabétique, voilà. Eh bien, on a Gérard et sa femme Adalgarde qui donnent donc aux moines leur fils Frodebo, et dans les biens de Saint-Nazaire, ils donnent une saline. Et alors, mais pourquoi est-ce qu'ils donnent une saline ? Ben, parce que quand on fait rentrer son fils au monastère, on donne quelque chose. C'est normal, c'est logique, c'est la procédure normale. Donc ici, vous doutez bien que pour rentrer dans le monastère, d'abord, ils ne sont pas n'importe qui, et ensuite, s'ils ont les moyens de mettre leur fils dans le bon monastère, ils ont les moyens de fournir aussi une saline qui n'a, mon Dieu, pas l'air trop désagréable. Bon. Et qui, en tout cas, serait considérée comme fort bienvenue dans le temporel. Donc, qui, après, va être exploitée. Probablement au bénéfice des moines. Mais une fois pour toutes, on connaît la saline, on connaît le Seigneur, mais il y en a un que vous ne connaîtrez jamais, c'est le paludier, celui qui descend dans la saline, celui qui se met les pieds dans la boue, celui qui ratisse, aux abonnés absents. Alors, ça n'est pas une exclusivité pour les salines. C'est le cas pour toutes les chartes de l'époque. Vous avez pratiquement jamais de coutume paysanne. De temps en temps, vous avez quelques sanciers. Enfin, dire par exemple qu'on va payer un bouc, deux chèvres et trois verras, excusez-moi, mais dans un chartrier, dans un cartulaire, qui est la documentation de gens bien qui se reconnaissent, ça fait assez moche. Et donc on ne le fait pas. Alors il y a un cas, mais il n'a rien à voir avec les salines qui est connu, il concerne plutôt la région lyonnaise, on vous dit qu'il y a la charte de donation. Et puis à côté, il y a la description. La description où on va rentrer dans les détails techniques. Mais ça, ça ne se conserve pas. Parce que dans un cartulaire, on conserve les liens de prestige, les allégeances, les clientèles, les détails purement techniques. Ils ont existé, mais ils les ont même volontairement censurés. Donc ce sont ces éléments-là sur lesquels il va falloir insister. Donc ici, on va donc suivre nos salines au titre de la rente et de la coutume seigneuriale, donc comme d'autres biens, vignes, bois, champs et autres genres de choses. Et donc, à la limite même, quand on aura des chartes qui vont nous présenter quelqu'un qui donne juste une saline, et par rapport à d'autres où on va vous dire je donne une saline, des vignes et d'autres choses, ben celui qui ne donne qu'une saline, soit il est radin, soit il est plutôt de seconde zone. Hein, il y en a un qui est un grand noble sur toute la région, l'autre qui est un peu plus local. Si c'est comme l'interprétation si, ou, qu'on peut souvent arriver à retrouver. Ceux qui ont un patrimoine plus diversifié, plus dispersé, eh bien, sont en général au-dessus. Alors, comment est-ce qu'on va se débrouiller avec ces histoires de saline ? Eh bien, on va prendre trois notions. La première notion, indispensable, puisqu'on voit tout qu'il y a des salines, et on va le voir, c'est l'aménagement du territoire. Avec l'effort d'investissement, la part du fisc, et la création de nouvelles salines. Le deuxième élément, c'est la rente monastique, les stratégies de développement que sont les salines. Et puis une petite question qui vient à la fin sur le réseau d'approvisionnement et distribution du sel. Qu'est-ce que les moines viennent faire là-dedans ? Alors la question, c'est quand commence l'aménagement de la côte charentaise ? Parce qu'évidemment, je peux revenir et vous mettre tout ça. Vous avez toutes mes zones qui sont en grisé plus foncé, qui sont des salines. Mais les dates varient selon les périodes. C'est difficile à dire, puisque le Marais Salant, c'est une structure née au 8e siècle. Encore un peu inconnue au départ, et d'ailleurs la preuve, c'est qu'on en a un texte, j'ai pris un capitulaire de Louis le Pieux, qui ne sait pas trop quoi faire des salines. C'est notre premier bout de texte qui est là-haut. Alors, existence de saunier privé, vous supprimez le mot privé. Je passe mon temps à dire que mettre privé public, c'est idiot. Et puis ce jour-là, je devais être fatigué. De saunier indépendant, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Le capitulaire, c'est un capitulaire pour les Missis de 821, qui convoque au palais toute une série d'officiers, de gens qui comptent dans la hiérarchie carolingienne, et qui, comme tous les capitulaires, n'est pas à proprement parler un texte de loi, mais un recueil d'instructions. Et au milieu de toute une série de capitula, il y a le petit capitulum 8, où d'un seul coup, on s'inquiète du sel. Et manifestement, on ne sait pas quoi en faire. Parce qu'on a, pour la terre qui est sur le bord de la mer, ou sur les côtes, où on fait du sel, nous voulons, donc c'est Louis le Pieux qui parle, que quelques-uns de ceux quelques-uns d'eux viennent au plaid et qu'on les écoute, qu'on écoute leur explication, pour qu'on puisse les définir. Là aussi, je reviens à la définition que donnait Jean-Luc Sarrazin tout à l'heure, facile de traduire, difficile de comprendre. Ben, moi, je dirais pour qu'on puisse, d'une certaine manière, les jauger correctement, histoire de savoir qu'est-ce qu'ils font. Ça veut dire qu'il y a des personnages qui sont considérés depuis la cour comme des agents publics, des nobles locaux, des grands personnages qui commencent à contrôler du sel. Qui commencent à contrôler du sel sur les côtes dans ce truc nouveau qui est les marais salants. Alors, en connaissant la vitesse de réaction mentale de l'administration et le fait que, manifestement, le marais salant est un truc encore un peu nouveau en 821, eh bien, ils commencent à se poser la question de... C'est bien gentil, leurs aménagements de territoire, mais il y a des comptes là-dedans. Il y a des grandes abbayes. Qu'est-ce qu'ils font ? À quoi ils servent ? Comment est-ce qu'ils nous servent ? Comment est-ce qu'on les intègre ? Donc, il y a un petit peu cette espèce d'inquiétude de débat. Alors, les premières salines elles-mêmes, eh bien, la plus ancienne que l'on ait pour la région concerne Saint-Mexant, voilà, c'est le numéro 6 de Saint-Mexant, 892. Donc là, on aurait une première saline. Mais il y a une petite curiosité, on se dit, ça y est, on est en train de fonctionner à Tasdon, on a une première saline, alors elle est pas mal, mais on apprend que c'est des trois frères, Aldo, Renard et Adalfred, qui vendent et donnent, enfin, et livrent, les chartes de l'époque adorent répéter. Hein. Vendere, tradere, et ainsi de suite. Bon, plus on rabâche, mieux ça vaut. Hein. Et donc, un certain Hubert, ils vendent leur saline dans le pagus Donis, à l'INNC, dans la villa de Tasdon. Où ça devient intéressant, c'est ex nostra hereditate nobis, successit. Donc en 892, votre saline, elle est constituée. Et elle en est à la deuxième génération, au moins. Ça veut donc dire qu'effectivement, on a commencé. Alors il y a 57 R. Bon, je vous épargne un débat purement technique, avec lequel d'ailleurs j'ai reparlé tout à l'heure avec Jean-Luc Sarrazin, sur ce que sont les airs. Pour la période moderne, il y en a qui disent que c'est une mesure. Pour cette période-là, c'est l'air sonnante, l'air de production. Mais quant à la normaliser, pas possible à savoir. Deuxième particularité, et là j'aurais peut-être plutôt pu utiliser mon mot privé à bon escient, vous remarquez qu'en 892, cette saline passe des trois frères, là, Aldo, Renard et Adalfred, à un certain Hubert. Et nulle part, il n'est dit que Hubert est moine. C'est donc une vente à un autre. Alors, qu'est-ce qu'elle fait dans le cartulaire de Saint-Mexant ? Eh bien, elle fait exactement la même chose que ce qu'on retrouve au début des chartes de Cluny. Il y avait des actes entre laïcs. Et plus tard, Hubert, ou lui ou ses descendants, ont dû donner cette saline à Saint-Mexan, et donc ils ont récupéré les archives. Je vous rappelle, par exemple, que le début des chartes de Cluny, c'est assez intéressant. L'abbaye est fondée en 909-910, selon le style, vous prenez la datation. Mais je vous rappelle que les premières chartes de Cluny commencent dans les années 890. Ben là, vous avez le même genre de choses. Donc, vous avez une donation privée ici. Donc, qui a au moins 25 ou 30 ans. Les salines ont donc pu commencer vers 860 sur la côte des Charentes, ce en quoi on n'est pas très différent de ce que vous trouvez vers 850 dans le cartulaire de Redon, où il y a un achat de salines. C'est un certain Salou, oui, on porte le nom qu'on peut, qui vend une saline Mahorem. Alors bon, évidemment, les noms sont bizarres, mais vous savez, la retranscription à l'oreille du bas breton en latin donne des résultats un petit peu acrobatiques. Bon, et on sait que cette saline, elle est vendue. Mais alors là, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que cette saline, elle est vendue, alors pour 10 sous, ce qui n'est pas une somme considérable, hein, bon, 10 sous, 120 deniers. Mais curieusement, elle est vendue avec une réserve à 3 ou 4 ans. Et si au bout de 3 ou 4 ans, eh bien, ils n'ont pas récupéré la somme, les moines gardent la saline. C'est-à-dire qu'en fait, de vente, ce n'est pas une vente. Votre détenteur de saline se fait prêter de l'argent. Et il leur dit, prenez ma saline. Alors, c'est un gage. Ça veut donc dire qu'on a bien compris que la saline, c'est un gage rentable. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire ? Évidemment, si vous êtes tout à fait optimiste et que vous voulez développer le sel et que vous dites que vos moines ont l'intérêt technique, c'est qu'ils ont compris que la saline était rentable, mais vous allez vous dire aussi que votre personnage est un bon manager, qu'à l'affût d'opportunités, il va en profiter pour créer des salines de plus. Bon, là, on commence à extrapoler, à inventer, on se calme, on s'arrête, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Simplement, on voit simplement, avec ces deux éléments, que considérer les salines comme des éléments de patrimoine qui fonctionnent, c'est déjà quelque chose qui est acquis dans la deuxième moitié du IXe siècle. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a tout le dossier de Saint-Cyprien qui devient intéressant. Et on va retrouver ce dossier de Saint-Cyprien avec un certain nombre de salines qui vont se développer progressivement. Alors, justement, pour qu'on s'y retrouve dans le dossier, j'ai reclassé par ordre chronologique et pas par ordre des actes. Première saline qu'on revoit entre 923 et 936, 928-929, 934, 937, 940, 941, 942, 941, 942, ils insistent, 947, 968, probablement. Ensuite, 995, vers 1000, puis 1021, 1029. Un tir groupé pendant le Xe siècle. Vous prenez Saint-Mexant, même chronologie, 892, 939, 940, 942, 944, ou 962, 964, 964, 969, 968 à 974, 983, 984, 985, 985, dixième, il y en a un qui est une qui n'est pas datée, c'est vague, 987 à 1011, et puis, après, ben vous pouvez continuer, vous êtes arrivé vers les actes 80 du cartulaire, il y a encore 400 pages à vous envoyer, il n'y a plus rien. Ce qui va poser le problème de pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là qu'on a des actes qui enregistrent des salines. Alors, le problème, évidemment, c'est de savoir pourquoi on a voulu faire ces salines. La réponse, on va la retrouver parfois dans certains actes. On a vu les dates. Regardons un peu le détail. Vous savez, on n'a pas grand-chose. Alors, notre texte latin, on le triture, on en tire tout ce qu'on peut jusqu'à inventer des faux problèmes. Mais là, il n'y en a pas que des faux problèmes. Il y a quand même des éléments précis dans cette évolution des dates. Voilà, on reprend Saint-Cyprien. Très bien. L'acte 520. Oui, et on donne une terre. In Marisco Vinzella. Très bien. Dans la villa de Voutron. Très bien. Jusque-là, ça va. Elle touche de trois côtés aux terres de Saint-Mexant. Ah. On va revenir sur ça tout à l'heure. Et puis, on donne aussi une terram desertam, terre qui n'est pas exploitée, toujours à Vinzella, ad areas faciendas, pour faire des aires de salines. Donc, c'est bien, non seulement le moment où les chartes apparaissent progressivement pendant ce Xe siècle, mais un moment où on est en train de construire des salines, où il y a un effort d'aménagement. D'une certaine manière, on pourrait presque avoir de l'intuition, et on va voir si ça va se confirmer, que les moines participent à cet effort de construction de salines pendant cette période-là. Alors, est-ce que ça se vérifie? Ben oui, prenons 528. 527, 528, 934, on doit être à peu près, voilà. Voilà, l'acte 528. Alors, un certain comte Ebolus, à la prière d'un certain Roger, donne au moine de Saint-Cyprien un bien de son bénéfice. Donc, une saline, ça peut être un bénéfice. Là, c'est l'aveu carrément qu'on est dans du seigneurial. Il donne una cum area ad salinas faciendas. Il donne una quoi? Una terrage, probablement. Mais pour faire des salines. Donc, il y a bien un effort conscient des salines. 522, la charte de 968, même chose. On crée des salines. Alors là, c'est Isambert et Adalberge, et puis leur fille qui s'appelle Adalberge. Crée des salines. In terra qui dicitur nova. Dans la terre neuve. Entre parenthèses, Copnia, Mama et puis Fetiliacum, c'est Cugne et Fetilli. Aujourd'hui, c'est les quartiers nord de La Rochelle. C'est pas encore La Rochelle, c'est encore indépendant. La Rochelle, le premier acte qui vous parle vraiment de La Rochelle, il est là, c'est le 519. Donc, il y a une volonté. Et ça va faire exactement la même chose. Vous prenez les actes de Saint-Mexant, je vous promène vers le 14, et donc, comme toujours, je reste sur le texte, faute de mieux, c'est le seul os que j'ai arrangé. Et donc, regardez aussi, eh bien, on retrouve la même chose. On est en 939 dans un lieu non identifié qui répond au nom poétique de Trueca. Alors, on crée une jurzeta, terme technique local probablement, ad centum areas construendas, pour construire sans air sonante. Et donc, ceci va nous permettre de retrouver... Bon, et puis je pourrais continuer avec le 39, où il est de nouveau question de mention d'une donation d'une terra nostra inculta. Donc, on veut bien créer... Alors, le problème, qu'est-ce qu'était la terre avant qu'elle soit une saline ? C'est simple, les textes nous le disent. Je crée une saline in marisco. La terre était un marais. Elle n'était pas exploitée. Et donc, ces terres marécageuses, en fait, on les met en culture, ou plutôt on leur trouve une forme d'exploitation à partir du moment où on a trouvé cette invention nouvelle et géniale au milieu du 8e siècle, qui est le marais salin. Et les moines ont participé. Et on rejoint à ça... Eh bien, de se demander qui contrôle ces terres. Alors, les moines, bien sûr, puisque tous nos témoignages sont là pour nous dire que ce sont les moines qui ont créé ces salines. Mais pas que les moines. Regardons un peu qui est-ce qu'on a. On a vu tout à l'heure dans l'acte 528 que s'il y en a un qui donne une saline, oh, il est juste le comte Ebolus. Inconnu par ailleurs, mais ça ne fait rien, il est quand même comte. Dans le 527 Saint-Cyprien, on a le personnage qui s'appelle le vicomte Cadalon, qui souscrit. J'ai dû vous le mentionner. Voilà. Donc, vicomte Cadalon qui va revenir ici. Voilà. Souscription du vicomte. Dans autres actes, par exemple le 521, eh bien, souscription, le comte Guillaume, son fils Guillaume, le vicomte Acfred, l'évêque Gilbert. Quand je vous parlais de documentation dans, où on est dans l'entre-soi, vous avez tout le Rotary Club local, là. et si vous allez du côté de Saint-Mexan, ben vous allez avoir la même chose. Saint-Mexan 14. Guillaume, duc et comte, donne à son fidèle et à sa femme une saline. Donc, on est bien dans les personnages. Alors, on peut continuer avec d'autres éléments qui seront tout aussi intéressants. Un abbé qui donne une saline dans son alleu. Et puis, regardez là, un vicomte catalo. Le même que tout à l'heure, il sévissait à Saint-Cyprien, le voilà qui ressort à Saint-Mexan, lui ou un fils, et avec sa femme, qui d'ailleurs répond au très joli prénom de Sénégonde, plus très usité, mais bon, et où on constate qu'il donne divers biens en Onis, dont 100 terres salles de salines, plus la femme qui donne ses biens personnels. Donc, ces terres sur lesquelles on fait des salines sont des terres qui sont aux mains des grands. Prestige des souscripteurs et terres contrôlées par les élites dominantes. Or, c'était des terres qu'on commence à exploiter. Ce qui fait que moi, j'aurais envie de dire qu'on a affaire là, en fait, à un moment où on constate que cette zone qui était une zone pionnière est mise en valeur et rentre dans un système d'encadrement seigneurial. Alors, ça pose un autre problème. Si c'était rentre dans la norme seigneuriale, et où les moines en profitent comme les autres, on constate aussi que il a fallu, pour rentrer dans la norme seigneuriale, faire un énorme effort d'aménagement du territoire. Parce que une saline, c'est ça. Eh bien... Vos chartes ne le cachent pas. Vous avez les confronts. Ici, par exemple, voilà, si vous suivez ça. Sur le quatrième côté, stagno. Alors, vous pouvez traduire par l'étang. Non, c'est laitier. Hein. Vous pouvez continuer régulièrement et reprendre les mêmes genres de choses. le stagnum publicum. Ce qui veut dire qu'il y a une organisation derrière. Ben oui, bien sûr, parce que laitier, M. Sarrazin nous en a la définition tout à l'heure, c'est là où la marée monte et descend et où il y a circulation. Ben vous ne coupez pas un laitier comme vous ne coupez pas une route. Sinon, on ne peut pas y arriver. Et donc là, vous avez exactement les mêmes genres. Ici, regardez, de tertia parte stereo publico. Alors, il y a toute une série de variantes, stagno, stereo, stoarius, même chose à Saint-Mexant. Bon, ça, je peux le laisser. Voilà. David Astazdon. Alors, de trois côtés, la Saline, du troisième côté, Saint-Sauveur, du quatrième parti, stoarius publicus, laitier public. C'est pour ça que je vous parlais de zone pionnière. Parce que manifestement, on n'a pas pu se lancer dans la constitution d'une saline, alors pas sur des étendues gigantesques, mais petit à petit, en faisant première tranche, deuxième tranche et autre genre de choses, sans qu'il n'y ait eu un aménagement. Alors, à ce moment-là, j'étais assez content de moi, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé quelque chose. Et puis là, je regarde mes chartes, et il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous avez des indications un petit peu curieuses. Par exemple, en 945, on va retrouver, ou 995, voilà, dans la charte 521. Alors, un certain Achard donne à Saint-Cyprien un morceau de sa terre dans Nonis. Il y a 50 aires de sel dans la vicaria de Châtelaillon. Donc là, jusque-là, on est sur la hiérarchie très classique de la vicaria. Alors, d'un côté, il y a la terre basse, de l'autre côté, la terre de Saint-Sauveur et de Saint-Étienne. Il a pour voisins Saint-Sauveur et Saint-Étienne. Bon. Ça passe sans trop de problèmes. Il y a d'autres cas qui sont plus compliqués. Par exemple, le 520, qui est un peu antérieur. Il vend cette saline qui, de trois côtés, touche à la terre de Saint-Mexant. Monsieur est enclavé. Ben, il vend à Saint-Cyprien. Ah bon? Pourquoi il ne vend pas à Saint-Mexant? Logique qui me semble un petit peu bizarre. Alors, c'est pas mal, ça, mais il vend de la terra deserta. Alors, ça veut dire qu'autour, il a Saint-Mexant. Si lui, il n'avait rien fichu de sa terre et qu'il l'a laissé pour la transformer en saline et la faire exploiter, ça ne vous dit pas que Saint-Mexant, ils ne sont pas occupés à rien faire de la terre aussi, en ce moment-là. Et puis, alors, on a des cas qui sont encore un petit peu plus étranges. Adelhelm, 523, donne au moine de Saint-Cyprien sa saline dans le marais de Golinis, par Péret, dans les biens de Saint-Nazaire. Très fort. Il a trouvé le moyen de donner et de vendre aux moines de Saint-Cyprien un truc qui appartient à d'autres, si vous traduisez mot à mot. Ben non. Il y a deux possibilités qui sont envisagées. Soit quand quelque chose est in rem, ce serait une indication géographique dans la zone d'autorité de, ou alors sous la seigneurie supérieure, et ça nous ramène à des éléments très classiques du Moyen-Âge. Vous devez, une fois pour toutes, vous abstraire de l'idée d'une propriété unique. Ça, c'est à moi et c'est à personne d'autre. Hein? Voilà, donc on a ça qui apparaît. Donc vous voyez que pourquoi on met des salines de ce côté-là. Le comte, d'ailleurs, lui-même, Saint-Mexant, donne une terre qui est à Saint-Sauveur. Donc ça, c'est Saint-Mexant 14... On va retrouver la même genre de choses. Il donne, et il dit bien que ça touche de tous les côtés à la terre de Saint-Sauveur. Bon. Et du quatrième côté, ça touche à la côte, au trait de côte plus exactement. Donc, nos moines sont des investisseurs dans les salines, comme toute la gentry locale. C'est comme ça qu'il faut l'envisager. Alors, les investissements. Alors là, on se dit, ça y est, on va être très content, on va avoir des prix. Oui, on avait le prix de Redon 10 sous, sauf que ce n'est pas une vente, c'est une mise en gage. On a quelques autres prix, 520 pour Voutron, on a la mention de 200 sous. Voilà. Il est question d'un prix de 200 sous. Là, c'est une somme nettement plus conséquente. Ça peut aussi prendre des formes de vente sous réserve viagère. La 522 de 968 vous donne des tarifs de vente. C'est là, dans les faubourgs de La Rochelle, où on a des choses intéressantes. Alors, on crée les salines. Alors, il y a le port Tous Nempda, donc Nantes, qui est là. Il peut en même temps créer au même endroit une pêcherie avec 6 barrages à poissons, 6 filets à poissons. Bah oui, parce que c'est bien gentil hein, de faire du sel par évaporation. Mais l'hiver, il faut avoir autre chose à faire. Hein. Bon, et mais surtout ici, on a un élément, c'est que Isambert et Adalbourge et concèdent ça aux moines. C'est très gentil, mais réserve viagère. On donne aux moines à condition qu'ils la conservent pour eux et leurs filles. Ce qui amène à se poser la question, est-ce qu'ils ne rentrent pas dans un réseau de protection? Parce que dans le système tel qu'il apparaît au Xe siècle, avec un affaiblissement d'une autorité de type royal et une décentralisation accrue des pouvoirs, il vaut mieux faire partie des bons réseaux. Et donc, la réserve viagère est une bonne solution. Saint-Cyprien, on est... Bon. Alors, du coup, eh bien, eux, ils donnent. Et tous les ans, tous les 5 ans, ils vont payer un cens de nom de 5 sous. Donc, c'est pas grand-chose. Et alors, curiosité, de 200 sèches. Je suppose que vous pouvez prendre en traduire calamar ou autre genre de choses. Enfin, ils font pas trop la différence. Hein. Les textes de la même époque aussi considèrent que tout ce qui est cétacé, de la baleine, hein, du crapois, donc voilà. Donc, ça peut être payé de façon vente viagère, 30 sous dans le cas de Saint-Mexan aussi, dans la 6. Mais souvent, c'est pas forcément l'achat qui va compter pour les moines. Ce que les moines attendent, c'est la rente seigneuriale. En tant que seigneur, la terre compte pour la rente. Alors, il y a manifestement une habitude de mettre sur ces terres un prélèvement. On les retrouve à plusieurs reprises, des indications de prélèvements obligatoires ou de coutumes seigneuriales. Voilà, par exemple ici. Gérard et sa femme Adalgarde donc, ont amené leur fils Frodebaud. Là, c'est l'histoire de la saline qui permet d'entrer au monastère. Je vous signale que d'un côté, ils ont gardé, c'est leurs propres héritiers. De l'autre côté, c'est l'étier public, hein, donc ils n'ont pas tout donné. Et on précise qu'il y aura 2 muits de sel de cens par an. Très bien. Paye 2 muits de sel. Eh bien... On a d'autres réserves du même genre qui sont données très régulièrement. 2 muits de sel, si on prend d'autres actes, vous les retrouverez. Sub censeo unus modius, modii, avec un accord latin qui est... Bon, on parle le latin comme on le pense. Hein. Bon. Et donc, finalement, ici, il y a une coutume. Bon. Alors, c'est bien. On a des chiffres. Eh bien, on va résister à toute force à essayer de donner une quelconque réalité à ces chiffres. Je vous ferai remarquer déjà tout simplement qu'il y a un point de détail, c'est qu'on vous dit qu'on fait le cens de un muit, mais on ne vous dit pas si c'est R par R ou si c'est pour la totalité. J'aurais plutôt tendance à penser la totalité, parce qu'en voyant les prélèvements de sel qui ont lieu ensuite au XIVe, XVe siècle, s'il faut prendre un muit sur chaque aire, ça ne marche pas. Mais à ce moment-là, du coup, la règle de prélèvement, vous ne jetez surtout pas pour une calculette pour dire donc on prélève tant au mi. Ça ne marchera pas. Parce que c'est toujours un ou deux. Donc ça correspond à la logique de la rente seigneuriale. On est dans le cadre de la coutume seigneuriale qui fonctionne au forfait. Sans avoir à s'occuper des contingences d'exploitation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne voit pas les paludiers. L'exploitant, on s'en fiche. Le producteur, on s'en fiche. Mais ce système seigneurial, sur le fond, il a une vertu politique dont certains nous ont fait rêver il y a quelques années. C'est le système gagnant-gagnant. Parce que, en gros, finalement, une fois que vous avez payé à la coutume seigneuriale, ben, si vous décidez d'en faire un peu plus, le reste, c'est pour vous. Ce qui explique qu'il y ait des péages sur le sel, puisque les moines sont exemptés des péages. Alors, on ne peut pas avoir du sel qui circule sans avoir des gens qui ne sont pas exemptés. Ou alors, vous admettrez qu'on construit les barrières d'autoroute pour le plaisir qu'on fasse bonjour en passant. Donc, voilà le système. Alors, dans certains cas, on a même des cas qui sont très typiques. L'acte de Saint-Mexant numéro 16 est caricatural de ce côté-là. C'est l'abbé Girbert, donc l'abbé de Saint-Mexant, qui donne à ses moines une saline dans le Pagus Donis, qui s'appelle, qui est à Voutron, alors il y a 60 aires. Alors elle a sur les trois côtés, elle est dans la terre du Saint, donc elle appartient déjà à l'abbaye. La quatrième côté, elle est à bord. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un abbé qui donne à ses moines une terre qui est déjà enclavée dans les terres. Ben, monsieur fait tout simplement un transfert de ce qu'on appelle la manse abbatiale à la manse destinée aux frères. En fait, il fait une réaffectation de revenus. Ce qui prouve bien que quand il donne à ses moines, ben, il est en train de gérer ça comme il aurait géré des vignes, des forêts, des terres. Ce n'est pas le point de détail. Et ensuite, on a même le cas de récupération ultérieure qui sont données, puisqu'on a vu l'acte tout à l'heure qui avait été donné à un certain Hubert et qui a fini dans les archives de Saint-Mexant. Donc finalement, l'étendue des aires sonnantes, on ne peut pas la connaître. Le poids du prélèvement sur les aires, on ne peut pas la connaître parce qu'on gère ça de loin. Du moment que ça marche, du moment que les paludiers veulent bien faire le boulot, du moment qu'on touche, et du moment que c'est inscrit dans la coutume seigneuriale, ça fonctionne très bien. Alors, un petit point de détail maintenant, on va retrouver notre carte pour revoir un peu les lieux de production. Alors là, vous les avez tous. Alors, en gros, les investissements ont tendance à se grouper. Par exemple, Saint-Cyprien a tendance à se mettre ici. Vous avez le marais d'Yves. Oui, ma carte est trop petite, il aurait fallu que je l'augmente. Et puis mon inscription aussi est trop petite. Saint-Mexant, c'est plus dispersé, avec une règle qui semble apparaître et qu'on a vu avec les premières mentions de Cougne, de Fétilly et puis de La Rochelle ensuite. D'après ce qu'on a, et en prenant les différentes dates, mais que vous ne pouvez pas lire là-dessus, ça semblerait partir du sud pour remonter vers le nord. On aurait d'abord fait les salines ici, ensuite par là, et ensuite on serait passé à La Rochelle. Et la première attestation de La Rochelle, justement, elle vient tardivement. Reste à dire un petit mot. Maintenant que le maillage seigneurial de ces salines est constitué, de savoir quel profit les moines tirent de ce sel, est-ce qu'ils le distribuent. Alors, on a des mentions différentes. Il existait à l'époque carolingienne classique des exemptions de tonlieu pour les navires des moines. Dans ceux qui transportent potentiellement du sel, on en a deux. On a Charroux, 3 navires, et on a Noirmoutier, 6 navires. 9e siècle. Attention, même si Noirmoutier n'a pas encore grand-chose à vendre, avec 6 navires qui remontent la Loire en étant allés, donc à la folle vitesse d'un piéton qui tire un bateau, 3-4 km heure quand on a envie de sprinter, on est très loin de la multinationale Lucel. C'est pas possible. Donc, ça peut être au mieux des réseaux d'approvisionnement seigneuriaux, au besoin un petit peu à la famille, pour la familia. Et Charroux transporte sur ses navires, son autorisation lui permet de naviguer sur la Charente, de naviguer sur la Garonne, la Dordogne et la Loire. Bon, vous descendez la Charente, vous allez jusqu'à Charroux. Déjà, si vous avez décidé d'aller jusqu'à l'embouchure de la Loire et de doubler la pointe de Saint-Gildas avec des courants qui ne sont pas particulièrement la haute navigabilité, je ne pense pas qu'il y ait des choses qui soient extrêmes. Pour l'époque carolingienne, je l'avais étudié, par exemple, Nevers, de la saline de la Loire à Nevers, 1 mois. Avec un navire, du sel qui est stocké, bon, ils ne vont pas faire ça tous les mois, 3, 4, 5, allez, on va être généreux, on va leur dire 7 ou 8 bateaux par an. Ça ne va pas aller très très loin. Donc, bien sûr que les moines participent au commerce du sel. Quand ils ont investi, comme c'est le cas de Saint-Mexant ou de Saint-Cyprien dans le sel, pourquoi voulez-vous qu'ils s'en dispensent? Mais vouloir en faire des distributeurs exclusifs, non, certainement pas. Alors, qui va transporter ce sel? Eh bien, ils vont prélever quelques muis, un muis là, 2 muis là, et ainsi de suite. Bon, on peut discuter sur la valeur du muis. On a tendance à rester fixé sur le muis carolingien d'autour de la 50aine de litres. Ça vaut ce que ça vaut, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Les cargaisons de l'époque, transport par voie de terre, prenez un chariot à 4 roues, allez, si on est généreux, 800 kilos. Vous prenez des épaves sur les fleuves, on en a trouvé une fort jolie à Sainte, Monsieur Chapelot en a longuement détaillé ce qu'on pouvait en dire, bon, quelques tonnes. Pas de quoi faire une grande distribution. Par contre, il y a de quoi faire ce qui est la base économique. Parce que c'est ça qu'on a tendance à oublier. C'est que ce Moyen-Âge, même avec une documentation en latin, on est obligé de tout triturer, ils ont une logique économique. Et ils ont une logique qu'ils ont fort bien compris. L'impôt, ça marche quand vous faites payer régulièrement des petites sommes à beaucoup de gens. Eh bien, c'est exactement ça qu'est le péage sur le sel. Alors, donc, ce sel, oui, les moines dans le sel, je suis d'accord. En activité complémentaire, ils se mettent dans la pêcherie aussi. On investit dans les pêcheries. Je vous rappelle qu'un des musts de l'époque aussi, c'est l'anguille. Ce qu'on peut tirer classiquement. Par contre, pas de poisson salé. Hein. Vous n'êtes pas avec le stockfish norvégien encore. Hein. Ça, c'est, on ne conserve le poisson salé en baril. Il faut attendre la fin du Moyen-Âge. On a du poisson fumé, mais pas salé. Alors, mais les moines, pour le sel, qu'est-ce que sont nos moines de la région? Ben, des rentiers de la coutume qui gèrent le sel comme d'autres biens. Ils avaient du sel à proximité. D'autres grands avaient du sel. Logiquement, ils ont investi dans le sel. Ils ont acquis un savoir-faire. Ils ont parfois su investir, acheter pour créer de nouvelles salines. Mais attention, ils n'exploitent pas eux-mêmes. Hein. Ils font exploiter. Ils savent discerner ce qui est rentable. Ils savent investir. Petite preuve indirecte, qui vient dans les salines au-delà du Xe siècle? Des abbayes extérieures, celles qui veulent un petit art, petite ouverture sur le sel. Alors on a le cas de l'abbaye d'Ébreuil dans l'Allier, qui se fait donner des salines. Bon, il tape les collègues, hein, tout simplement, de façon très classique. Et puis on a 2 exemples aussi pour la deuxième moitié du XIe concernant Cluny. Cluny, c'est plus subtil, parce que Cluny, ils ont des salines dans le Jura. Mais ils se disent qu'après tout, varier les fournisseurs, ça pourrait être utile. Donc, voilà ce que l'on peut dire sur les moines et le sel. La saline, ça existe, ça a une technique, ça fonctionne, ça rapporte, et donc c'est intégré dans le système seigneurial, dans le goût du Xe siècle. Je vous remercie.
Eh bien, merci beaucoup pour cette très belle intervention sur les salines. Et donc, on est descendu des côtes vendéennes, ou plutôt de l'ancien diocèse de Poitiers à l'ancien diocèse de Saintes. Et vous avez très bien montré le rôle des moines, d'un point de vue économique, en tout cas dans le développement de ce paysage qu'on a conservé aussi aujourd'hui. Donc je laisse la parole à la salle si vous avez quelques questions sur ces notions-là d'économie, de dons, de saline ou je ne sais pas, sur certaines abbayes par exemple qui ont été mentionnées.
J'aurais voulu savoir si vous aviez des idées sur ce qu'étaient ces Saint-Sauveur, Saint-Nazaire et Saint-Étienne. Vous avez cherché sans doute.
J'ai regardé, mais pour l'instant, je n'ai aucune piste franchement convaincante.
D'accord, merci.
Je pense qu'il y a un énorme travail de prosopographie à faire sur ces actes, notamment dans les signataires, dans les témoins, parce que j'ai l'impression justement d'une clientèle qui fonctionne en vase clos.
Oui, je confirme cette impression de tous les actes du Xe siècle. On est dans l'entourage du comte,
oui.
Comte, vicomte, et on retrouve les mêmes noms. Je signale que nos collègues Georges Pont, Robert Favreau et tous ceux qui nous ont précédés ont établi un premier fichier, un fichier onomastique anthroponymique à partir de tous les cartulaires de la région. Donc c'est un dossier qui peut être repris plus facilement parce qu'ils ont repéré toutes les occurrences de noms de personnes. Et voilà, s'il y a...
Il y aura à repister un petit peu de ce côté-là.
Mais effectivement, on est dans l'entourage de personnages publics.
Oui, il y a un moment où il est question, notamment le cas d'Allon. Il y a un moment où on soupçonne qu'il est vicomte de Brioux.
Ou de Brioux.
Oui.
Je rebondis sur la question de Claude. Est-ce que Saint-Sauveur, ça ne pourrait pas être Saint-Sauveur de Charroux ?
C'est pas exclu. C'est pas exclu, mais malheureusement, la titulature n'est quand même pas si rare que ça. Oui.
Et ma deuxième question, c'est pourquoi est-ce que ça s'arrête au début du XIe siècle ?
Alors là, il y a deux pistes possibles. Soit c'est désormais intégré et encadré, donc on ne précise plus dans les actes. Soit, et c'est pas exclu, ça n'exclut pas l'autre solution, c'est la modification de la nature des actes qui intervient dans le cours du XIe siècle, en allant vers des récits qui sont beaucoup plus des notices, et où on est beaucoup moins dans les formules lapidaires que l'on recopie. Parce que là, bon, vous avez vu quelques extraits, mais... Il faut quand même bien dire que ces actes, même si vous les avez triturés sous vos yeux, ils sont quand même formidablement répétitifs. Hein. Je ne sais pas si c'est de la médecine médiévale, mais pour lire ça à 2h du matin, si vous avez une insomnie, vous êtes garanti du résultat. Hein.
Non, ce n'est pas de la médecine médiévale. Enfin, je peux vous le confirmer, je n'ai jamais vu ce remède-là, hein, dans les collections médicales que j'ai consultées.
Bonjour, moi ma question concerne plus l'évolution des techniques. Oui. En effet, vous dites qu'à partir du 8e siècle, nous passons d'une technique de combustion pour récolter de sel à une technique d'évaporation naturelle. Cependant, Marie Evander, qui travaille plus sur la période proto-historique et antique, estime que la saline est déjà connue par les Romains, en tout cas dès le bas empire, je crois, et donc elle serait peut-être aussi utilisée sur la façade atlantique. Déjà, comment datez-vous cette transition au 8e siècle ? Et est-ce que la saline ne pourrait pas avoir une origine antique et donc une réutilisation
alors,
à la période médiévale?
Bon, la question des origines dépend toujours un petit peu des témoignages archéologiques. Alors déjà, le sel par production, par évaporation naturelle, évidemment plus facile à mettre en place dans un climat type méditerranéen. Surtout notamment dans l'Adriatique, autour de Comacchio et autres genres d'éléments. Un des éléments qui a fait penser à des salines tardives vient de ce que l'on trouve dans le sel de la baie. Donc là, on est sur le marais breton, où on a des attestations de salines qui fonctionnent au feu au VIe siècle. Et par contre, qui fonctionnent à l'évaporation au VIIIe. Alors, ça ne veut pas dire que la technique n'est pas plus ancienne. Mais en fait, il se pose la même question pour le sel, la technique du sel, que la manière, à quelle vitesse est-ce que les Romains ont fait remonter en Gaule la technique de la vigne. C'est remonté de la Méditerranée, et puis progressivement, ça a gagné le Nord. Et là, je pense qu'il peut y avoir à peu près le même genre d'éléments. De toute façon, pour mettre en place sur la côte atlantique des salines, il a fallu attendre le fait qu'il y a eu un petit reflux marin. Hein, se souvenir que le IVe siècle a été une phase active, ce qu'on appelait autrefois les transgressions flandriennes. Aujourd'hui, les géographes vous disent « il ne faut surtout pas dire ça !» qui a correspondu tout simplement à l'effondrement des Pays-Bas, à la création de la mer qui est rentrée, les îles Frisonnes qui sont l'ancien trait de côte. Et donc, évidemment, quand la zone vient d'être largement inondée, et les deux marais, vendéens et bretons, l'ont été aussi, ce n'était pas le moment propice de se mettre au sel. À partir du 8e, 9e, c'est peut-être mieux considéré. Je pense que là, il y a aussi une réponse climatique qui était éventuellement envisagée.
Merci beaucoup.
C'est pour poursuivre dans la même lignée, parce que je ne sais pas si on peut estimer l'importance du bois qui doit être utilisé quand on fait des systèmes par le feu. Et parce que je pense notamment à la question des mines de mel, pour lesquelles Florian Thérégeol propose, dans l'affaiblissement et puis l'abandon de l'extraction, un problème de couvert forestier.
D'approvisionnement en bois, oui.
Voilà. Est-ce qu'on pourrait imaginer ce genre de choses aussi
qui
stimulerait le remplacement de
très certainement, oui. Certainement que ça a dû jouer, hein, parce que l'approvisionnement en bois a pu poser un sérieux problème quand la densité de la population a augmenté.
Parce que j'ai pas souvenir, mais dans ces chartes, est-ce qu'il est fait mention du couvert forestier d'une manière ou d'une autre? Parce qu'on est dans des zones finalement incultes,
oui.
Donc dans des zones qui relèvent du fisc,
oui, c'est ça,
des zones publiques. Donc qu'on soit dans des marais ou dans des forêts, on est dans le domaine public.
Oui, on a gardé la notion romaine de ce qui est à personne, l'État est public, quoi. Mais là, on n'a pas vraiment de possibilité. Alors, par contre, l'approvisionnement en bois, oui. Alors, ça a pu jouer. Bon, là, il semble que je pense que c'est plus une raison de... Ils se sont adaptés à partir du 9e, 10e, parce qu'à ce moment-là, ils avaient vu que ça marchait ailleurs, ils ont trouvé un moyen d'exploiter des terres qui, jusque-là, dont ils ne savaient pas quoi faire, quoi. Le bois pouvait être un problème. Par exemple, les salines, il y en a eu aux Pays-Bas, hein. Ben, ils brûlaient de la tourbe. Parce qu'évidemment, les vertes forêts de Hollande... Bon.
Moi, j'avais une question sur la notion de stockage. Parce que vous avez parlé du fait qu'on avait connaissance de certains navires qui amenaient le sel, mais où est-ce qu'on stocke le sel en attendant de pouvoir le transporter? Donc ça, c'est une première question. Et puis, deuxième question, toujours en lien avec cette notion de stockage. on a connaissance, alors je ne sais plus dans quelle source exactement c'est, d'un lieu, ça doit être à Cognac si je ne me trompe pas, où là il y a un lieu de stockage pour le sel pour les moines d'Aubazine, visiblement sur leur trajet. Alors je me posais aussi cette question pour Ébreuil, qui n'est pas tout près non plus des côtes charentaises. Comment... Voilà, est-ce que dans les chartes, il y a des mentions?
Il y a des mentions de stockage. Par exemple, on a une mention de stockage, ou en tout cas de perception de stockage, qui concerne Angers. C'est le péage de Gétigné. Alors, c'est sur la Sèvre, mais la Sèvre nantaise. Hein. Donc, à l'est de Saint-Philbert, eh bien, une abbaye d'Angers prélève 100 muis de sel sur ce péage. Ça veut dire que s'ils ont 100 muis de sel à disposition... bon, peut-être payé avec régulièrement, il y a un stockage qui correspond à un péage local. Donc, des relais, ça existe. Alors, comment se trouve l'allure pratique de la saline? On a l'AREA et on a assez régulièrement la mention cum omni amarationé ou marationé ou maratio, encore un mot que vous ne trouverez jamais dans le Gaffio, hein, qui correspond, et d'ailleurs pas plus dans le Ducange, connaissent pas. C'est pareil aussi, la Jurzeta, que j'ai un moment pas connu, qui sont des termes. Et ça serait des indications de méthode d'exploitation. Avec, et puis aussi, il y a toujours comme apparatus. Alors, dans l'apparatus, je sais pas, mettez des entrepôts, tout ce genre de choses-là. Mais d'en donner une idée pratique, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas pour toujours la même bonne raison. On est entre gens qui passent un acte de bonne compagnie. Franchement, déclaré. Et la boîte à sel, elle est là? Non. On donne avec l'équipement. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire.
Je vous remercie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste au nom de l'équipe à vous remercier pour votre intervention. Et puis, Cécile avait prévu des conclusions. Quelques mots de conclusion, en tout cas. Je te cède la parole avant de terminer.
Non, je ne vais pas faire de conclusion scientifique. D'abord parce que ça va être un petit peu compliqué. Et puis, je pense que certains de nos collègues ont des trains à prendre. Mais je voulais d'abord remercier tous mes collègues et Jean-Luc Sarrazin qui a dû nous quitter à regret pour avoir vraiment joué le jeu de cette interrogation. C'était pas un exercice forcément très, très facile de la place ou du rôle des moines dans cette culture scientifique et technique. Et je pense, alors les étudiants, vous nous le direz après, ou vous ne nous le direz pas, mais vous le penserez. J'espère en tout cas que chacun, quels que soient vos sujets, vous avez trouvé matière à réfléchir, y compris éventuellement des données. Je pense que c'était important de voir la diversité des sources, mais aussi des méthodes. Et on a, au fil des présentations, vraiment eu des exemples tout à fait... explicite et en même temps explicité. Et donc, merci de ça. Je pense que c'est important aussi de voir qu'effectivement, au-delà, derrière l'aspect, les questions de sciences et techniques, d'art, d'artisanat, on a aussi une dimension sociale, une dimension économique, qui est finalement, dans un certain nombre de cas, le moteur de bien des choix et de bien des réalisations, avec un monde monastique, mais ça, ceux qui travaillent sur le monde monastique souvent se rendent compte que la notion de clôture est une notion dont il faut se méfier. Elle existe et en même temps, on voit très bien qu'il y a une interaction très, très régulière entre l'intérieur du claustrum et l'extérieur, que ce soit dans des partages ou des échanges de connaissances, de savoir-faire, dans des associations également pour promouvoir ou mettre en valeur des techniques préexistantes, mises en affinées et diffusées. Et je pense que là, avec les exemples qu'on a eus, On a également la question de savoir comment on passe d'un savoir théorique à une application pratique, ou comment la pratique peut aussi nourrir une mise par écrit qui devient une norme, qui devient conseil, qui devient élément d'enseignement et donc de diffusion. Et donc je pense qu'on a vraiment là eu un panorama. Alors on pourrait multiplier et prendre d'autres exemples, mais j'espère que l'essai est réussi. En tout cas, de mon point de vue, je suis vraiment ravie de cette succession de communication. Et je tiens encore à remercier alors mes deux collègues Manon et Pascal qui ont animé la séance de main de maître, et puis Héloïse pour tout ce qu'elle a fait avant et même pendant la journée et après effectivement, et donc remercier aussi tous les auditeurs, pas seulement nos étudiants mais aussi tous les auditeurs de cette journée, et j'espère qu'on pourra poursuivre l'enquête et je laisse à Héloïse la dernière parole.
Je voulais poursuivre par rapport à ce qui a été assez transversal, peut-être moins pour la médecine, mais en tout cas, c'est déconstruire justement le mythe des moines qui vont sur le terrain. Ça, je trouve que ça a été assez dit dans les différentes interventions. On en a parlé. C'est pour ça que je te disais après, parce qu'on pourrait imaginer quelque chose sur les représentations qu'on a des moines de façon contemporaine, comme étant ceux qui aussi sont agriculteurs, qui ont un certain nombre de compétences sur le terrain, et qui finalement c'est un peu une représentation imagée, une imagerie d'Épinal, si je puis dire. Enfin, voilà, je voulais juste remercier tous les intervenants, ceux qui sont venus de loin, enfin voilà, de loin en France ou en Belgique, et merci Cécile, Pascal et Manon. Merci à vous également, les auditeurs, et bonne fin de journée. Au revoir.
C'est un dos carré collé, ça s'appelle en imprimerie. Ils ne le font pas là où on imprime. Donc c'est envoyé ailleurs et le temps que ça revient.